9.
Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons parler liberté de la presse et musique, bien évidemment. La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux de système, des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Bon, ça c'était Wikipédia. En parlant de liberté d'expression, Nicolas Bedos fait le tour des médias pour présenter son nouveau livre « Soif de la honte, quelle indignité ». Donner la parole à des hommes accusés d'agression sexuelle, Vincent Bolloré adore le faire. La radio dont il est le propriétaire, Europe 2, vient de remplacer Benjamin Castaldi par Sébastien Coé. Le monde ne tourne-t-il rond en ce moment? Je vous le demande. Nos personnages publics font des retours médiatiques sans grandes conséquences après des actes horribles dont pour la plupart ils ne reconnaissent pas les faits. Les politiques ne sont pas les derniers. Darmanin est toujours ministre. Macron décide de laisser la Légion d'honneur à Gérard Depardieu mais aussi à Nicolas Sarkozy tant qu'on y est. Il faut un changement. Si des actes comme ceux-là sont banalisés et que l'on voit ces hommes retourner à leur vie, à leur carrière, comme si de rien n'était, les choses vont encore mettre plus de temps à évoluer. Les médias sont ce qu'ils nous reste pour parler de l'actualité avec neutralité mais aussi avec humour. Guillaume Meurice a dit, je cite, « L'humour marche très bien pour démonter un propos, mais en revanche, il est difficile de construire un propos, une idée, avec de l'humour. L'actualité, il faut des fois la prendre avec de l'humour pour l'avaler. C'est pour ça qu'existe la radio, Radio Campus et la matinale de 19h, une émission du matin qu'on fait le soir. Nous faisons tout à l'envers, nous sommes des bénévoles passionnés par la radio et animés par l'envie de nous faire entendre. Pour cela, je suis entouré de plein de monde ce soir, vous allez adorer ce qu'il va se passer. Comme le disait José Arthur, avec la radio, surtout la nuit, on peut encore faire rêver. Alors rêvons ensemble pendant une heure, rêvons bien, mais rêvons engagés surtout. Merci d'écouter Radio Campus Paris. Tout de suite, le sommaire de la matinale de 19h. Une chronique de Léa vous attend. Avec nous pour la chronique actu, ce sera Paul Toucan. Le flash info par Fabien. Et puis non pas un, mais deux zooms, deux interviews musicales. Nous allons être rejoints par un DJ québécois, Super Plage, avec une musique qui annonce déjà l'été. Et puis par Justine pour nous parler d'un concert solidaire d'Elikia. La grande interview concerne la liberté de la presse. C'est avec Éléonore et son invité dans un instant. Merci d'écouter la matinale de 19h sur le 93.9.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et il est 19h04 et nous parlons du classement mondial de la liberté de la presse 2025 avec Éléonore et son invitée Blanche Marès, responsable du desk data et notamment de l'index de Reporters sans frontières. Bonjour à vous deux. Éléonore, c'est à toi.
Bonsoir Hugo, merci. Bonsoir Blanche Marès.
Bonsoir.
Comme on vient de le dire, vous êtes data journaliste et c'est en partie grâce à vous qu'on doit le rapport qu'a publié RSF Reporters sans frontières sur la liberté de la presse en 2025, rapport qui a été publié le vendredi 2 mai. On en parle de plus en plus de cet étau qui se resserre autour des médias et de la liberté de la presse comme une première étreinte à la démocratie. Et ce qui ressort principalement, on reviendra par la suite là-dessus, c'est l'impact que cela peut avoir sur les États démocratiques et les sociétés développées. En tant que responsable du classement mondial de la presse, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'expriment ces différents critères qui ont permis d'établir ce rapport, que ce soit économique, politique, socioculturel et cadre législatif ?
Oui, bonjour. Je peux commencer en vous expliquant tout simplement la méthodologie. En fait, à Reporters sans frontières, on a décidé de se baser sur une définition de la liberté de la presse, qui est en fait la possibilité d'exercer le métier de journaliste, donc pour l'intérêt général, mais sans contraintes politiques, économiques, légales, sociales et sécuritaires. Et c'est donc à partir de ces 5 contraintes qu'on a décidé de faire 5 indicateurs. Donc on envoie un questionnaire à des experts de la liberté de la presse dans 180 pays du monde. C'est pas seulement des journalistes, mais c'est parfois aussi des chercheurs, des personnes qui travaillent dans des ONG, des juristes. L'idée, c'est que c'est des personnes qui connaissent la liberté de la presse et sont en mesure d'en parler. Et une fois qu'on a récupéré toutes les interviews, enfin les réponses au questionnaire, on peut faire ensuite la moyenne de ces 5 indicateurs et avoir le score global.
Et donc justement, vous parlez de cette définition de la liberté de la presse. Ça m'évoque aussi la loi de 1881. Par rapport aux pays démocratiques et aux sociétés développées, on remarque que l'Union européenne n'est pas en reste et ne figure pas en haut du classement. Comment on peut expliquer ce recul au niveau du rang mondial des pays qui sont développés, qui sont des états de droit? Et donc de fait qui ont cet impératif de garder une liberté de la presse, non seulement au niveau mondial, mais aussi...
Bien sûr.
Je vais
essayer de répondre à votre question, mais déjà, hein, il faut parler du constat mondial, puisque à l'échelle du monde, la situation est devenue désormais difficile. C'est-à-dire qu'en fait, on note les pays, on a un score entre 0 et 100, et cette année, le score est passé sous la barre des 55 points. C'est-à-dire que, pour la première fois, il y a cette barrière qui est franchie, et les pays sont en situation difficile. Ensuite, on constate aussi que la moitié des pays du monde sont soit en orange foncé, soit en rouge sur la carte. Donc quand on regarde la carte, elle est de plus en plus rouge. Et c'est vraiment ce qu'on constate, le constat s'aggrave chaque année. L'indicateur économique, pourquoi est-ce qu'on parle de cet indicateur économique? Parce que c'est l'indicateur qui est le plus bas et qui tire en fait le classement vers le bas. Et en effet, c'est pour la raison que vous avez évoquée, puisqu'en fait c'est juste... l'idée que l'économie n'est pas mauvaise simplement dans les pays où tous les médias sont possédés par les régimes, tout simplement, c'est que des médias d'État, mais aussi dans les pays démocratiques ou les pays en haut du classement. Et donc là, bien sûr, on ne peut pas ne pas penser aux États-Unis, puisque c'est l'exemple qui est le plus frappant par rapport à l'actualité, mais en fait, c'est l'idée que même dans les pays les mieux classés, il peut y avoir des difficultés à avoir une presse libre, notamment en raison d'atteintes au pluralisme qui sont assez variées.
Justement, ce rapport signale que dans 160 sur les 180 pays analysés, ce qui est assez énorme, les médias ne parviennent pas à atteindre une stabilité financière qui serait décrite comme une conséquence de cet étau économique qui piège à la fois les médias nationaux, internationaux et aussi les subventions qui leur sont accordées. En quelques mots, comment ces subventions d'État qui financent les médias à l'intérieur des pays et aussi des médias qui s'exercent et qui se financent en dehors de ces pays-là, comment ces subventions d'État peuvent être non seulement réduites mais annihilées, en quelques mots, quand on est face à un pays démocratique qui exerce la liberté de presse, en tout cas sur le papier.
À Reporters sans frontières, on demande justement des garanties pour qu'il n'y ait pas la possibilité de décider de mettre fin à des financements pour des médias qui sont trop biaisés ou de gauche, comme le président Donald Trump vient de le faire là avec l'exemple d'une radio d'une chaîne de télévision. Mais en fait, l'idée, c'est aussi que, par exemple, la fin de l'USAID, donc, qui était des financements qui permettaient de financer plein de médias à l'étranger, a un impact réel sur le terrain. Si on prend l'exemple de l'Ukraine, il y a 9 pays sur 10 qui recevaient des financements étrangers. Donc à partir du moment où on coupe ces financements, on coupe tout simplement les voies indépendantes dans des zones de guerre ou de conflit. Et en Ukraine, ça peut en fait avoir des conséquences très lourdes, puisque si on a les journalistes n'ont plus les moyens de tout simplement parler des crimes de guerre et donner des informations que sinon on ne pourrait pas avoir, cela devient très grave. Et par exemple, je pourrais aussi vous parler de la fin de la volonté de fermer les médias du gros groupe USAGM, puisqu'en fait, c'est la volonté de mettre fin à des médias comme Radio Free Europe ou Radio Free Asia. Et nous, notre correspondante, par exemple, en Birmanie, nous a dit, pour nous, c'est vraiment une question de vie ou de mort, tout simplement. Parce qu'en Birmanie, au moment du séisme ou dans les conditions géopolitiques actuelles, le seul moyen d'avoir une information fiable et de s'en sortir, c'était d'avoir les informations de Radio Free Asia. Et donc là, quand Radio Free Asia dit qu'ils sont contraints de fermer des services en ouïghour, par exemple, qui était, c'était le seul média indépendant en langue ouïghour ou en tibétain, etc., en fait, c'est bien plus grave que simplement mettre fin à l'information. Et c'est aussi une portée symbolique, puisque tout simplement, les États-Unis servaient de modèle pour la démocratie, pour la liberté de la presse dans le passé, enfin historiquement, et que là, en fait, ils sont simplement devenus une menace pour la liberté de la presse à l'échelle du monde.
Et parallèlement, on remarque que les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft dominent largement la distribution de l'information. Cette hégémonie dont parle le rapport, comment il peut à la fois exprimer une diversité d'opinions disponibles à tout public sur les réseaux sociaux notamment, et à la fois exprimer un contrôle omnipotent et oppressif sur les médias dits traditionnels, ce deux poids deux mesures de justement on impacte l'information de la presse écrite tout en accordant plus de 200 milliards de publicité pour l'information sur ces plateformes.
En fait, toute la question, c'est que la structure de l'économie des médias a changé au fil des années et que du coup, il faut que les plateformes et nos gouvernements s'adaptent. Et donc, il faut demander aux GAFAM, par exemple, des nouvelles contraintes, on va dire. Et donc, par exemple, imaginons un blogueur dans un pays relativement fermé qui va être journaliste et donner ses informations indépendantes. Si lui, il permet d'accéder à une information unique en publiant sur des réseaux sociaux, il va avoir aucune rémunération en échange. Et certains médias indépendants n'ont en fait plus les moyens de subvenir à leurs besoins puisque finalement les GAFAM vont juste récupérer l'argent des annonceurs et ne pas le redistribuer. Donc nous, on demande vraiment une redistribution de l'argent perçu pour justement valoriser le journalisme indépendant et fiable. Et pour cela, on demande également de distinguer l'information fiable et indépendante et de qualité du reste de l'information pour pouvoir valoriser justement les médias qui sont vraiment journalistiques.
Et du coup, par rapport à ça, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, quelles sont actuellement les pratiques concrètes et les mises en cause législatives, si on peut appeler ça comme ça, qui sont imposées à cette publicité d'information qui s'étend afin de lui donner un cadre juridique et légal?
Pour le moment, il n'y en a quasiment pas. Il y a des débuts d'initiatives, notamment européennes. On parle aussi pour l'indépendant. Alors, c'est des initiatives différentes, mais par exemple, il y a aussi l'European Media Freedom Act qui permet, pour le coup, de montrer que les médias sont indépendants et qu'ils ont des financements indépendants, enfin, l'indépendance des financements. Par ailleurs, l'idée, c'est simplement de pouvoir montrer de continuer à faire un plaidoyer pour demander ça, puisque pour le moment, il y a très très peu d'initiatives dans ce sens.
Et justement, si on parle de désinformation et de fake news qui sont à disposition de tous et toutes, on constate que 60% des pays enregistrés sont en recul dans leur score et rang sur le classement mondial. Comment cette désinformation et cette étendue de fake news peut à la fois permettre aux pays, par exemple là, je voudrais parler de la Hongrie, des gouvernements qui répriment les médias critiques, parallèlement à ce qu'on vient de dire sur l'étendue et l'accès, le surplus d'accès aux informations?
En fait, il y a aussi l'idée que 112 pays ont leur score qui baisse. En fait, pas forcément leur rang, parce que parfois c'est le piège, le score baisse, mais le rang augmente par effet mécanique. Mais il diminue, notamment, si on parle de la Hongrie, c'est parce qu'il y a beaucoup de concentration des médias. Et c'est aussi le cas en France, d'ailleurs, qui perd 4 places cette année, et notamment en raison de l'hyperconcentration de la presse.
Nous continuons avec vous dans un instant, Blanche Marès, à parler de liberté de la presse. Mais avant, une chanson d'un grand défenseur de la liberté. Il était au JO tout en bleu, c'est Philippe Catherine avec Liberté. Liberté de Philippe Catherine.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Il est 19h17 et nous sommes toujours dans la matinale de 19h en compagnie de Blanche Marès de Reporters sans frontières qui nous éclaire sur le classement mondial de la liberté de la presse avec Éléonore.
Alors, pour reprendre ce qu'on disait il y a un instant, on parlait de des initiatives qui pourraient être mises en place au niveau légal. Dans le rapport, vous mentionnez le Journalism Trust Initiative. Est-ce que ça peut faire effet de solutions durables pour lutter justement contre cette indépendance des médias qui est menacée particulièrement dans les régimes autoritaires et notamment en Hongrie, qu'on évoquait justement à l'instant?
Bien sûr, pour nous, la Journalist Trust Initiative, c'est vraiment une initiative pour la confiance dans les médias. Et en fait, la confiance, c'est ce qui manque souvent. Et nous, l'objectif, c'est de montrer simplement à Reporters sans frontières que la confiance, c'est aussi la possibilité de découvrir et de savoir où on peut trouver l'information de qualité. Et donc, cette initiative, elle permet simplement de distinguer l'information de qualité de l'information qui n'est pas forcément de qualité, par une certification. En fait, l'idée, c'est pas simplement de regarder un contenu et de se dire, bon, bah, est-ce que ce contenu donne une information qu'on pense qui est fiable, c'est plutôt de regarder le process en amont et d'essayer de savoir en amont si l'information a été construite de la bonne manière. On ne veut pas juger le contenu, mais le processus de construction du contenu. Et l'objectif ensuite, c'est que sur les plateformes, on puisse distinguer les informations, enfin les médias certifiés des autres, et même sur les serveurs de recherche, etc. Donc ensuite, on puisse avoir vraiment une différenciation même d'un point de vue financier, ce soit avantageux pour ces médias.
L'indicateur économique reste un critère principal pour ce rapport. Justement, la stabilité financière qui est évoquée comme défaillante pour la grande majorité des pays impacte non seulement le financement et les subventions dont on a parlé précédemment, mais aussi la possibilité aux reporters et aux journalistes sur le terrain de pouvoir continuer à recevoir eux-mêmes un salaire et donc pérenniser leur statut de journaliste. Quand on zoome sur le classement, on se rend compte que la France est en 25e position. Comment on peut expliquer ça, notamment par le pluralisme et la diversité d'informations et la concentration de la détention des médias par un tout petit nombre de personnes largement valorisé économiquement?
Oui, bien sûr, c'est ce que je mentionnais plus tôt. Mais d'ailleurs, pour la France, il faut aussi savoir que la France est 66e au niveau sécuritaire, et c'est notamment dû aux événements en Nouvelle-Calédonie. Donc cette année, les violences contre les journalistes ont eu un impact sur le classement, qui est aussi à prendre en compte. Après, à RSF, on appelle vraiment pour un New Deal pour le journalisme. Donc on a fait des recommandations précises pour essayer justement de changer l'économie des médias et de trouver des solutions. La première solution, ça passe tout simplement par le fait de se dire qu'un média, c'est pas une marchandise comme une autre. C'est ce qui a tendance à être véhiculé, notamment, j'en parle encore, mais par Donald Trump récemment. Mais en fait, l'idée, c'est plus de se dire que le journalisme, c'est un bien commun et qu'il faut le valoriser, puisque l'information qui est transmise par le journalisme, c'est d'intérêt général, elle sert à tout le monde. Et en fait, ça me fait même penser à la situation en Palestine qu'on n'a pas encore abordée, puisque les journalistes à Gaza, en fait, sont dans l'incapacité totale de donner des informations d'intérêt général au monde entier. Enfin, ils le font, mais c'est vraiment, on les empêche de le faire. Et on les empêche de deux manières. Tout d'abord, en empêchant simplement les journalistes étrangers de se rendre sur place, mais aussi en tuant les journalistes sur place. Et donc, par exemple, on peut en obliger de penser, quand on parle de ça, aux 200 journalistes qui ont été tués depuis le début du conflit. Nous, on a pu prouver que 43 ont été tués, délibérément ciblés par Israël, par l'armée israélienne, et tués dans l'exercice de leurs fonctions. Donc c'est vraiment sur ces sujets où on essaie de montrer que bah, voilà, là, on parle d'un conflit international au cœur de l'actualité. Et l'information qui est transmise est cruciale et d'intérêt général pour tout le monde.
En total opposé, on retrouve la Finlande qui est première. Et pour sa 9e année consécutive, il me semble, comment on peut essayer d'expliquer ce fossé énorme entre, par exemple, la situation de la Palestine, de l'Érythrée, la Corée du Nord. Je pense qu'on n'a pas besoin de revenir plus là-dessus, mais ce déchirement sur l'information entre la Finlande et la Palestine, en dehors des événements actuels, évidemment, au niveau économique, est-ce que ça peut permettre d'expliquer, au-delà d'une défaillance démocratique, un indice sur la sécurité économique d'un pays pour chaque citoyen et pour sa propre liberté d'expression.
Donc c'est vrai que c'est la Norvège qui est pour la 9e année consécutive et la première du classement. Après, il faut savoir que l'Europe, en général, c'est vraiment le continent où on trouve des disparités vraiment énormes, notamment avec l'Union européenne qui a son score global qui baisse, mais qui s'écarte du score du reste du monde, de toutes les autres régions du monde, puisque même le pire quasiment, enfin d'ailleurs la pire dégradation cette année, c'était en Europe de l'Est, Asie centrale, avec en fait c'était la zone qui avait la plus grosse dégradation de son score. Et si on parle des pays, pourquoi est-ce que l'Union européenne fait figure d'exemple, on peut mentionner qu'il y a plus de transparence, plus de pluralisme, mais aussi, je crois que vous avez parlé de la Finlande, c'est notamment un exemple en termes d'éducation, de formation des journalistes, parce que dans le reste du monde, il y a beaucoup de journalistes qui n'ont jamais été formés, il n'y a pas d'école de journalisme indépendante, il n'y a pas de possibilité simplement d'apprendre le métier et de se former. Donc, c'est très large, en fait, le panel. Ça va de qui possède les médias à comment est-ce qu'on fait vivre le journalisme à l'échelle du pays.
Justement, dans les pays comme la Palestine ou dans des pays favorisés, comment est-ce qu'ils font vivre les médias? Ça passe par des gens sur Instagram, j'imagine, des gens non formés. On a vu beaucoup à Gaza.
Alors, à Gaza, il y a souvent eu l'idée aussi qu'il n'y avait pas de journalisme digne de ce nom. Mais en fait, les journalistes à Gaza sont des journalistes qui, en plus d'exercer bien leur métier, le font au péril de leur vie. Et quand ils se rendent, par exemple, dans des tentes, en faisant des parcours très compliqués pour simplement accéder à une tente reliée au reste du monde, ils prennent des risques énormes. Et c'est vrai, c'est ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on les écoute également. Parce que nous, on les regarde avec notre regard sans se rendre compte du risque à chaque fois qu'ils peuvent prendre. Et en fait, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête.
Et puis, il y a aussi le problème matériel, j'imagine, pour charger les batteries, les caméras, les appareils photos. Exactement, dans un pays qui a beaucoup de coupures. Ça rend encore ça plus compliqué, non?
Oui, ils sont dans un dénuement très important. Et c'est nous, on essaye de les aider, notamment par le biais de la Rige, enfin d'un partenaire sur place. Dans la zone, et l'idée c'est de leur apporter des moyens financiers pour avoir un peu de matériel, mais ça reste extrêmement précaire, et c'est là où on voit la qualité du journalisme, le fait de pouvoir donner l'information en dépit des outils techniques.
Et justement, le fait de à tout prix pouvoir délivrer cette information au grand nombre, si on zoome un tout petit peu sur les États-Unis, on remarque que les données indiquent une énorme perte de confiance envers les médias, chose qui a toujours été dans tous les pays. Et cette méfiance de la presse, elle semble s'exaspérer de plus en plus au fur et à mesure des années. Comment cette théorie du complot, mais cette méfiance qui pousse chaque citoyen et au-delà chaque électeur peut avoir une conséquence énorme sur les prochaines élections et sur les mouvements politiques et démocratiques? Comment, par la concentration des médias par le pouvoir économique, on arrive à des pratiques concrètes autoritaires?
Le journalisme comme arme économique, c'est vraiment ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis. En revanche, c'est vrai que pendant les périodes d'élections, notamment en Afrique, on a pu voir que les médias sont encore plus contrôlés, parce qu'en fait c'est le moment le plus crucial pour le pouvoir, donc souvent les périodes d'élection sont celles qui sont les plus dangereuses pour les journalistes. Après, moi j'aime bien faire cette métaphore en disant simplement que pour ceux qui ont une main de fer, enfin qui veulent contrôler l'information du main de fer ou faire, je vais dire prosaïquement, un doigt d'honneur au journalisme, en fait dans leurs mains ce qu'ils ont surtout c'est l'index, ils l'ont dans leurs mains, le classement, et ils peuvent changer les choses, et donc ils ont les moyens de le faire. Et donc moi je continue à dire que chaque pays a la possibilité d'avoir l'index dans sa main, le classement, et de changer les choses en changeant les lois, en protégeant les journalistes et en chérissant l'information.
Merci beaucoup Blanche Marès d'avoir été au micro d'Éléonore pour nous parler de la liberté de la presse. On va continuer le combat ensemble, mais tout de suite c'est l'heure du flash info de Fabien.
Le flash info de la matinale de 19h.
Bonjour, une enquête a été ouverte par la brigade de recherche d'hier dans le Var après un cambriolage dans un magasin Intermarché de Camoul tôt le matin du samedi 26 avril 2025. Le voleur activement recherché a utilisé un 4x4 volé en guise de voiture bélier pour entrer de force dans la galerie du supermarché et y dérober un distributeur automatique de billets. La machine s'est toutefois révélée vide, les convoyeurs de fonds n'étaient en effet pas encore venus remplir la machine au moment du vol. Elle ne contenait donc pas de billets. Et puis, États-Unis, nous voulons des films made in America, a écrit Donald Trump dans un message posté sur son réseau social Truth Social lundi 5 mai. Le président américain entend en effet actionner à nouveau son levier politique préféré pour renforcer le protectionnisme économique avec les droits de douane. Sa nouvelle cible, le cinéma. Donald Trump a annoncé entamer immédiatement le processus d'instauration de droits de douane de 100% sur les films diffusés aux États-Unis mais produits à l'étranger. Russie, la journaliste et critique de cinéma russe Ekaterina Barabash, qui risquait jusqu'à 10 ans de prison pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine, a été exfiltrée de son pays vers la France par Reporters sans frontières. La journaliste de 64 ans, arrêtée fin février, risquait jusqu'à 10 ans de prison. Elle avait disparu de son domicile le 13 avril alors qu'elle était assignée à résidence par un tribunal de Moscou dans le cadre d'une enquête pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe. France, le Premier ministre aimerait soumettre aux électeurs un plan d'ensemble en référendum pour le budget 2026. Une palette de solutions qui porterait sur la réduction des dépenses publiques, indispensable pour combler les déficits et l'endettement record. Pour 2026, l'objectif massif est de l'ordre de 40 milliards d'euros. Et puisque ce défi engage selon lui l'avenir de la nation et demandera des efforts à tout le monde, François Bayrou a demandé du soutien au peuple français pour le relever. Sur le plan démocratique, le raisonnement semble imparable, mais sur le plan politique, il est quasi impossible à mettre en pratique. Et pour terminer, L'Éternaute, une série de science-fiction argentine adaptée d'une célèbre bande dessinée créée par le scénariste Hector Esterel, débarque sur Netflix le 30 avril. Avec elle, la ville de Buenos Aires entre en résistance contre une attaque extraterrestre. L'Éternaute trace la lutte de Juan Salvo, alias Ricardo Darín, et d'un groupe de gens ordinaires s'improvisant héros pour survivre et organiser, avec les moyens du bord, la résistance face à une invasion. Ce récit post-apocalyptique, je vais y arriver, en 6 épisodes, voit la ville de Buenos Aires piégée par une neige toxique. Elle a commencé le 30 avril sur Netflix.
Merci beaucoup Fabien pour ce flash info apocalyptique. Dans la matinale, une pause musicale s'offre à vos oreilles sur le 93.9 avec un DJ québécois que nous recevons dans un instant. C'est 1990 de Superplage.
Cassette contre
1990 de Super Plage sur Radio Campus Paris.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
C'est l'heure du Zoom dans la matinale de 19h et nous avons la chance de recevoir un DJ québécois Super Plage avec des paroles qui donnent envie de transgresser, de faire la fête et qui annonce l'été avant l'heure, une musique qualifiée électropop franco-sexu. Bonjour Super Plage.
Bonjour, merci de l'invitation et bon matin tout le monde.
Bon matin, bon matin. Ouais, on fait un peu tout à l'envers. Alors pourquoi est-ce que c'est qualifié de électropop franco-sexu ta musique?
C'est un peu une vieille appellation, peut-être qu'au début c'était un peu plus provocateur niveau sexu, j'ai vieilli un peu depuis, mais ça reste électro parce que c'est fait avec des machines, pop parce que j'espère que les gens vont pouvoir l'écouter, puis c'est quoi l'autre franco, ça s'explique soi-même.
Mais pourquoi avoir diminué justement les paroles à connotation sexuelle avec l'âge? On se calme, c'est les ardeurs de la jeunesse qui se...
On se calme, ouais, peut-être moins, j'ai peut-être moins le besoin ou l'envie de choquer, provoquer. Puis aussi, le premier album a été fait pré-MeToo, puis on dirait qu'après ça, j'étais comme... Ah, tu sais, peut-être que j'ai pas besoin d'être un autre mec qui dit des choses sexuelles.
Justement, ce dernier titre, 1990, il parle de quoi?
Il parle de beaucoup de choses. Ben, j'essaye que ce soit toujours à la fois universel et très pointu, comme si je parle de Musique Plus, qui est notre espèce de MTV
D'accord, québécois. C'est une chaîne, du coup.
C'était une chaîne de télé qui passait des vidéoclips. On revenait de l'école, puis là, il y avait le top 20 franco-anglo. Donc, ça a beaucoup marqué ma jeunesse, mes inspirations, etc. Puis c'est ça, tu sais, je pense que dans tout ce que je fais, il y a une espèce de part de soleil et une part de nuage. Fait que c'est ça, je parle un peu du passé en questionnant est-ce que c'était mieux ou pire ou... Puis aussi l'espèce de dualité entre le fait que, tu sais, j'étais pas né en 1990, là, ça sonnait mieux, mais tu sais, je sais que dans ce temps-là, c'était comme la guerre, la guerre au Kosovo, plein de trucs comme ça, puis on en entendait parler, mais tu sais, moi, j'avais comme 7 ans, fait que ben, j'écoutais des clips, puis je comprenais pas que c'était la guerre, tu sais.
Oui, ce que tu dis dans ce titre, mes cassettes contre des disques et tout le monde est un peu raciste. Pourquoi cette phrase?
Parce que c'est vrai, malheureusement, puis tu sais, je viens de... Je sais pas si on dit en région ou en province, ici les deux.
Alors maintenant ils disent région, avant ils disaient province, mais là il y a eu un combat, on dit région, mais tu peux dire comme tu veux, on s'en fiche.
Nous on dit région. Puis moi, la ville d'où je viens, je pense qu'à mon école primaire, il y avait peut-être 2 à 3 personnes racisées. Puis le racisme était présent malgré qu'on savait pas que c'était ça, parce que dans le fond, on n'avait pas de meilleur exemple, puis personne s'en était... choqué pour l'instant, mais je trouve que ça dépeint quand même bien la situation qui était le cas dans les années 1990 et qui change très tranquillement.
Ouais, ça avance très tranquillement. Est-ce que justement tu as une envie avec tes titres de militer un peu dans le sens, de dénoncer ça?
Oui, je suis pas quelqu'un de très activiste dans la vie. Je vais pas dans beaucoup de manifestations, entre autres parce que j'ai peur. Des bombes lacrymogènes, de la police montée, etc. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font. Fait que j'essaie de plus comme ça, encourager les gens à se questionner puis faire de l'activisme poli et facile à assimiler.
Ce qui compte, c'est de faire de l'activisme au final. Dans tes musiques, on se sent un peu dans un vieux film qui parle d'adolescence. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Est-ce que quand tu écris, t'écris en voulant parler de la jeunesse?
Non, pas du tout. Je pense que peut-être que il y a toujours une espèce de ton de liberté, de légèreté et de facilité qu'on associe à la jeunesse, mais non, c'est pas un exercice conscient que de rendre ça nostalgique plus que ça l'est déjà.
Ok. Donc toi, tu fais de l'électro-pop, entre guillemets, bien sûr. Est-ce qu'il y a une différence entre l'électro de la France et l'électro du Québec?
Oui, ben premièrement, il n'y a pas énormément d'électro québécois. Ceci dit, il y a Kaytranada qui est plus dans le house, mais qui, pour une raison ou une autre, il est pas dans la liste des artistes québécois, même s'il est, il est montréalais, mais tu sais, son projet est plus anglophone. Je pense qu'il s'en est déjà plein d'ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ouais, je pense que l'électro québécois est peut-être un peu plus expérimental parce que il y a pratiquement juste à Montréal qu'on en fait, puis je sais pas, les gens sont un peu bizarres, ils aiment les machines. J'avais trouvé qu'ici c'était un peu plus rigoureux. Ouais, voilà. Donc c'est peut-être que notre électro est un peu plus punk.
Un peu plus punk, ouais. On est un peu plus sérieux en France, peut-être un peu plus, ouais, je sais pas comment dire.
Ah ben je sais, tu sais, j'adore rigolo, des trucs comme La Femme, Sexy Sushi. Je trouve qu'il y a un aspect très punk à ce qu'ils font, mais c'est, on dirait que vous dépassez moins les lignes, si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, je vois. C'est quoi tes inspirations justement à toi?
C'est vraiment beaucoup de trucs français. C'est drôle parce que c'est la première fois que je viens ici, mais ouais, La Femme, Sexy Sushi, L'Impératrice, Flavien Berger, etc. On m'a montré une chanson de La Femme il y a 10 ans, puis ça a comme changé ma vie parce que dès que t'en écoutes une, ben là, les plateformes t'en envoient 100. Puis là, si t'en écoutes 100, ben ils t'envoient rien d'autre. Fait que j'ai vraiment bifurqué vers l'électro pour des raisons techniques du fait que j'étais un peu... Ça me saoulait d'attendre après les studios. Je trouvais ça compliqué, c'est cher. Donc, je voulais faire quelque chose comme avoir une idée, la produire, puis la tenir dans mes mains pas trop longtemps après. Fait que c'est ça, on dirait que je me suis dirigé vers l'électro parce que c'est comme un des seuls styles que tu peux produire quelque chose rapidement par toi-même sans avoir besoin de 20 personnes et... Plein de studios, instruments, etc.
Une musique que tu peux créer de chez toi et ça t'amène jusqu'aux scènes des Francofolies à La Rochelle cet été. Tu nous rejoins en France, tu viens de tourner un petit peu ici.
Oui, absolument, j'ai très hâte.
Et tu tournes beaucoup au Québec, donc ça va être ton premier concert en France, tu en as déjà fait avant?
Non, je suis venu quand j'étais bébé et c'est ma deuxième visite en France, donc je suis complètement vierge de concerts français.
Bon, bah alors ça va être super. Tu vas faire d'autres festivals ou c'est le seul que tu vas faire pour l'instant ici?
Pour l'instant, c'est le seul qui est à l'horaire. Je vais faire la traversée, dont je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler.
Non.
Dans le fond, il y a deux artistes français qui sont James Baker et Colin Rio qui viennent faire les Franco de Montréal avec moi et Vanille, qui sommes québécois. Notre Vanille, je sais que vous avez une Vanille, vous aussi.
Est-ce qu'on a une Vanille?
Non, je n'étais pas au courant.
Non, bon, on ne connaît pas Vanille.
Ah, ben, il paraît que vous en avez une. Donc, c'est ça, deux Français, deux Québécois. Qui viennent faire les Franco de La Rochelle et de Montréal. Donc, on fait une espèce de spectacle collaboratif avec des chansons de tout le monde. Puis, je vais aussi faire mon propre spectacle.
Bon, ben, on a très hâte d'écouter tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Super Plage.
Merci énormément.
Tac.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Nous rejoignons Paul pour sa chronique. Bonjour Paul, tu vas nous parler de Marine Le Pen.
Oui, je trouve qu'on n'entend plus parler de Marine Le Pen et ça me fait de la peine pour elle. Alors je me tiens pas trop au courant de la politique, mais il paraîtrait qu'elle a dernièrement récupéré un chaton qui allait très 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 mal, qui semble-t-il avait été retrouvé dans un local poubelle d'un HLM en banlieue rempli de parasites et il est mort de ses blessures. Donc sale année pour Marine Le Pen car le chaton est mort bien sûr, mais aussi son père. Et c'est très difficile de perdre son papa, même s'il est vieux et même s'il est un peu parfois méchant et agressif. Et même s'il a commis quelques dérapages, qui n'a jamais dérapé pour dire négro ou sale juif? Ça peut être gentil si c'est une blague. C'est horrible de perdre son papa, encore plus s'il est drôle et s'il fait des blagues. Dans la France d'autrefois, il y avait beaucoup de ces papas clowns qui buvaient des coups dans les PMU. J'aime leur nez rouge. On manque de clowns aujourd'hui. Ils sont tous morts d'une cirrhose ou quoi? L'hôpital public n'est plus ce qu'il était. Bref. Le RN, c'est devenu trop sérieux. Le FN, c'était plus rigolo. Au RN, ils ont tous des attachés case habillés en noir, en mode banquier de province technocrate. Ça manque de punch et de haine, mais au sens rigolo. Enfin, j'ai appris que les juges avaient dit des trucs pas cool. Mais Marine, elle est forte, c'est l'impératrice Sissi. Elle va se défendre contre ces gauchos en Sarouel. On va leur demander de chanter des chants de l'armée bien en rang à ces hippies, ces juges d'extrême gauche. Elle va répondre à tous ces trucs technocratiques qu'ils invoquent, là, style les articles de loi, les lois incompréhensibles. Et ouais, elle est avocate quand même, elle s'y connaît. Ridicule ces mecs, ces juges avec leur science des dossiers. On comprend pas ce que vous dites quand vous parlez, bande de monsieur cravate. Marine, avec sa beauté d'impératrice au visage froid, mais beau, j'imagine, elle va leur répondre avec son verbe. Ils vont faire pipi dessus. Ils sont en stress tous ces gauchos débiles. Ouais, ouais, je vois sa belle robe de reine des neiges, très élégante et désirable, je l'imagine, nue en dessous et totalement épilée du maillot. J'imagine son petit abricot, il est magnifique, monsieur, madame, un abricot. Pareil, on peut faire bander la France, la redresser pour qu'elle soit plus belle et grande et digne, une bonne grosse France. Marine, je bande! Pardon, je me suis un peu égaré. Bon, donc je disais quoi? Ah oui, il y en a des gentils, les étrangers. J'en ai rencontré un, c'était un Malien très cultivé, il lisait Verlaine dans le métro. J'ai pas osé lui parler, mais c'est quand même un signe d'intégration de lire de la poésie. Bravo à lui, bravo. Quelqu'un m'a dit que j'étais raciste. J'ai répondu que non, que c'était lui, qu'il était de moi, parce que j'avais une vision politique sans tabou. Je suis vraiment... RN, je suis plus radical et disruptif encore, donc je pense me lancer en politique, donc j'ai quelques propositions pour mon programme. L'éducation nationale et les fonctionnaires, déjà les profs, les juges, tous les gauchos, ils paralysent la France, donc on les tue. Les parents d'élèves aussi, ils sont chiants. La FCPE, il paraît qu'à l'école de ma nièce, ils se sont plaints de l'expulsion des sans-papiers. Les prisons, donc comme les prisons sont pleines, on réinvente le bagne, et pas n'importe quel bagne, un bagne écolo pour replanter les arbres. Tous les délinquants, on leur met un boulet au pied. Bravo les écolos. La dette, bon, bah, vu que la France est en faillite, on n'a qu'à revendre maillot aux États-Unis, vu que c'est la merde et qu'il n'y a que des noirs qui foutent rien. Ou alors on se fait racheter par Trump. Trump, rachète-nous, c'est la merde en France.
Merci beaucoup, Paul. Nous allons écouter Feu de Ruffy, une artiste qu'on retrouve demain dans le festival de nos invités du prochain Zoom.
C'est des...
Simple regard, moi je suis envoûtée. Le soleil tape sur le toit de l'hôtel. J'ai pris mes copines, on va profiter. Sur la carte, j'ai pris toutes les bouteilles. Mon café boum boum boum, il est passé dans la pièce. J'ai perdu tout contrôle de la situation. De la situation. Un coup c'est oui, puis c'est non. Puis je vais porter son prénom, mais je suis pas sûre. Mais c'est moi qui vais prendre la décision.
C'était Feu de Ruffy, on la retrouve demain dans un concert solidaire.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Nous sommes en direct jusqu'à 20h sur le 93.9 et il est venu le temps du deuxième Zoom, une interview où on parle d'un concert, mais pas n'importe lequel, un concert solidaire, Elikia, pour l'Est de la République démocratique du Congo, avec Justine et ses invités, Toméo et Anouk. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, Elikia, c'est un festival solidaire en soutien à l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, c'est un festival qui se déroulera demain, le 6 mai, à la Baie Villoise, à partir de 18h. Mais Elikia, c'est aussi un mot qui porte un message fort. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la signification du mot et ce qu'il représente à la lumière de la cause de soutien à l'Est de la RDC?
Oui, bien sûr. Elika, ça veut dire espoir. Le nom, en fait, on a pris beaucoup de temps à le choisir. Parce que justement, on voulait un mot qui fasse lien directement avec la RDC. Que ça puisse direct faire le lien et qu'on puisse comprendre de quoi on voulait... vers quoi on voulait tendre pour cet événement. Et je pense que c'est un peu le but de notre événement aussi. C'est un message d'espoir et d'humanité. On a envie de soutenir à notre manière, à notre échelle. C'est une toute petite échelle, hein, mais on essaye comme on peut. Donc, c'est à peu près ça, en gros.
Espoir,
c'est ça.
Merci. Et le festival est d'ailleurs organisé par l'association Younrise. Quelle est cette association et qu'est-ce qui vous a poussé à ajouter votre pierre à l'édifice en organisant le festival Elikia ?
Younrise, c'est le projet en fait, de deux sœurs qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Elles s'en excusent et du coup, c'est moi qui prends le relais pour en parler.
Avec plaisir.
Mais c'est deux sœurs qui ont eu ce projet de créer des événements, des lieux d'échange et de sensibilisation sur des causes oubliées, des crises dans le monde dont on parle peu et dont les médias ne prennent pas forcément le temps de parler. Et donc elles ont cette envie à terme de créer plein de lieux d'échange, d'événements, plein de choses très diverses. Et leur premier événement, c'est justement Elikia, qui est ce concert et cette conférence pour la RDC. Donc c'est un événement caritatif. Et le but, c'est de lever des fonds pour pouvoir aider sur place directement. Et ces fonds reviennent à une ONG qui s'appelle Alima.
Et oui, et justement, pourquoi avoir choisi du coup cette ONG ? Quelles sont leurs actions sur place ?
Bon, alors, le choix, ça a été aussi très, très pas pris à la légère. C'est une ONG panafricaine qui est directement implantée en Afrique et qui agit directement à RDC. Pour nous, c'était très important de justement, quand on crée ce lieu d'échange et de sensibilisation, de ne pas prendre la place et la parole des personnes directement concernées. Donc, on a choisi Alima parce que justement, c'est une ONG qui est africaine, qui intervient directement en Afrique et qui du coup connaît mieux le terrain que personne. Elle a des bénévoles qui sont directement congolais, qui connaissent très bien la crise. Notamment, demain, il y aura l'événement commence par une table ronde où il y a l'ancien président d'Alima qui va intervenir et qui a un médecin qui justement est intervenu. Et du coup, là, je reviens à l'autre question. Notamment, Alima, elle intervient énormément d'un point de vue sanitaire, donc auprès des femmes pour les accouchements, pour la malnutrition. Il y a aussi une épidémie de monkeypox qui a commencé en RDC l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. Donc pareil, pour subvenir aux besoins de la population, aux soins. C'est très très large en fait son intervention.
Mais du coup, ils subviennent surtout aux besoins urgents à adresser immédiatement.
Oui. Et nous, là, cet événement, c'est surtout pour les besoins sanitaires et alimentaires.
D'accord, bah oui, c'est vrai que c'est...
Ouais, c'est un peu la base.
C'est la base, c'est le minimum, effectivement. Et la programmation du Festival Elikia commence d'ailleurs par une table ronde, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Quel en sera le thème ? Et vous avez parlé d'un des intervenants, qui seront les autres intervenants ?
Oui, en fait, ce sera en deux étapes. D'abord, une heure de table ronde. Pour nous, c'était important de faire ces deux étapes parce qu'on voulait pas juste faire un concert et... sur la crise du Congo en RDC sans en parler et sans sensibiliser, parce que on se doute que les artistes qu'on a invités, ils ont un public qui connaît pas forcément ce qui se passe en RDC. Donc l'objectif, c'est aussi de sensibiliser, que les personnes viennent, découvrent cette crise et repartent en ayant vu leurs artistes favoris, mais en ayant aussi appris ce qui se passe exactement là-bas. Et donc cette table ronde, elle sera composée de 3 experts, donc elle porte vraiment sur la crise en RDC. C'est vraiment une heure de sensibilisation. Le thème, c'est de parler des problèmes sanitaires là-bas, d'expliquer le contexte de la crise. C'est en une heure, on ne peut pas tout dire, évidemment. Ouais. Mais c'est des personnes qui sont des experts, donc ils vont pouvoir vraiment vulgariser tout ça, à moindre mesure, expliquer et débattre dessus. Donc du coup, on a un médecin, ancien président d'Alima, un activiste qui est aussi un doctorant à l'Université Paris 8, activiste congolais qui a énormément été là-bas et qui connaît très très bien les enjeux sur place, et un journaliste qui a créé un média qui que sur le, la RDC, qui couvre toute l'actualité. Donc pareil, il connaît très très bien le sujet. Et le tout sera animé par une des deux sœurs fondatrices de Youndrise, qui est une chercheuse à l'IRIS, et qui du coup connaît bien le sujet aussi, et qui va pouvoir bien animer le débat. Et puis ensuite, il y aura le concert.
Et oui, le concert. D'ailleurs, plusieurs artistes vont se produire lors du festival, et notamment Ruthie, dont on a entendu la chanson tout à l'heure, Feu. Et qui seront les autres artistes? Et en vrai, quelle sera la vibe de la soirée du concert?
La vibe, il va y avoir pas mal de sonorités différentes. On a en fait une programmation très, très éclectique. Donc, il y aura Ruthie, il y aura Jeune Lion, Tisco, Léon, Linma, Joa Wallace, Vaps, Goldie Money et DJ Poly.
Ah ouais.
J'espère que j'oublie personne. Ah, Tenchi The Grit, ok, j'ai oublié quelqu'un. Donc, non, ils sont 10. Donc, si j'en ai dit 10, c'est bon. On a fait exprès aussi de prendre des artistes. Il y en a là, certains qui sont congolais, justement. On n'a pas réussi à faire tous congolais, mais la plupart le sont. Donc, c'est aussi important pour nous que c'est une. La parole va être donnée à des personnes qui connaissent très bien cette crise et qui sont concernées directement.
Ouais.
Et je tiens à préciser quelque chose, tous les artistes sont bénévoles.
Ah oui,
Donc c'est des artistes engagés, ils sont vraiment, ils ont, c'est une cause qui leur tient à cœur, c'est pas à la légère qu'ils sont engagés pour cet événement, c'est qu'ils connaissent cette cause et ils ont fait en sorte d'être là, d'être présents pour cette levée de fonds. Voilà, je voulais faire ce petit rappel parce que
c'est vrai que on se pose parfois la question quand on voit des artistes qui participent à des causes caritatives, et c'est bien de préciser leur engagement aussi. C'est ce qu'ils apportent au projet. Écoutez, pour finir, est-ce qu'on peut prendre les billets pour participer au festival Elika et soutenir l'association Youndrise? Et aussi, est-ce que vous pouvez lâcher vos réseaux sociaux pour qu'on puisse savoir vous suivre?
Oui, bien sûr. Il y a 3 billetteries différentes, donc si jamais vous pouvez le chercher, non, vous pouvez trouver. Il y en a une sur Elo Asso, une sur Shotgun, et la dernière c'est sur place. Et donc tout simplement, avec nos jolis sourires, on sera à l'accueil si vous avez besoin d'un billet. Et les billetteries, vous pouvez les trouver sur nos réseaux sociaux. On a une page Facebook et un compte Instagram. Le compte Instagram, c'est concert_Elika, E-L-I-K-Y-A. Et dans le compte Instagram, il y a un lien qui emmène directement à la billetterie. Et les places partent vite, donc dépêchez-vous.
Avec une telle programmation et un tel line-up, c'est pas étonnant. Elika, du coup, Festival solidaire en soutien à l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sera demain, le 6 mai, à la Baie Villoise, à partir de 18h. Merci à Anouk et merci Thomas.
Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la chronique de Léa et on continue à parler un peu de culture, puisqu'on va parler d'une ministre, pas n'importe laquelle, c'est la ministre de la Culture, Rachida Dati. Bonsoir Léa.
Bonsoir Rachida Dati. Elle est si cool. Ça m'étonne pas qu'elle soit tout en haut de la pyramide. Elle est tout ce que la civilisation humaine peut faire de mieux. La preuve, c'est qu'elle a été ministre de la Culture et de la Justice. Moi, si des aliens viennent et s'intéressent à notre planète, je leur montre Rachida Dati, direct. Un vrai exemple d'audace et d'ambition. Une success story si bien écrite et un modèle pour les femmes et des chaussures toujours trop belles. Pourquoi veux-je tant lui ressembler? Peut-être parce que j'ai été abreuvée d'exemples de réussite féminine compatibles avec le capitalisme. Tu vas chez le dentiste, il y a elle, voici, alors toi tu te méfies pas et tu t'exposes à des pages en papier glacé et tu imagines ta vie future. Sauf qu'aujourd'hui, ma vie future, c'est un peu de la merde. Je fais de la location de mon appartement sur Airbnb pour gagner un peu de thunes parce que je suis pauvre. Et un jour sur deux, je dors chez mon mec, sauf qu'en vrai, on se fait maraver par Airbnb parce qu'on a des mauvais commentaires. Airbnb a même voulu supprimer notre annonce car on n'est pas d'assez bons hôtes. Je peux passer un coup de gueule? Connard! Airbnb, connard! Bande de connards! J'en ai ras le cul de m'auto-exploiter pour une population de bourgeoisie mondialisée qui nous marave avec ses commentaires. On a trouvé des fourmis alors qu'ils auraient pu le dire en présence. Et ils font de la délation auprès de Airbnb parce que c'est des gros lâches de bourgeois mondialisés. J'aurais voulu une couette plus rebondie. Et elle a laissé du caca partout dans les chiottes, cette Allemande. Et les draps étaient pas du tout tachés, signe qu'elle baisse pas avec son mec. Et ouais, les femmes de ménage savent tout de vos vies. Je suis pas Rachida Dati, mais j'ai la puissance de la femme de ménage. Quand je mets mes gants MAPA, je me sens encore plus puissante que quand j'étais adolescente chez le dentiste à rêver des chaussures de Rachida Dati. Quand mon mec est tout nu sous sa tenue de ménage, il m'excite beaucoup. Je
me dis que j'ai réussi ma vie. Gare à toi, la bourgeoisie. J'ai pas raté ma vie parce que mon chez-moi n'est pas aussi beau que Rachida Dati. Je suis pas une gueuse. Dire les dondaines, dire les dondons. Madame la princesse, nous sommes d'humbles gueux qui vous recevons dans notre humble demeure. Nous espérons que la chaumière est bien chauffée. Quant à nous, nous allons dormir sur la bonne paillasse avec les cochons. Et y a pas de souci, nous tiendrons au chaud. C'est fini, Airbnb. Merci de m'avoir écouté, hein. ça m'a soulagée.
Merci beaucoup Léa pour cette chronique. La matinale, c'est terminé. Merci à Olo, à Eleonore et à son invité Blanche Marais, à Fabien pour le Flash Info, à mon invité le DJ québécois Super Plage, à Paul pour sa chronique, à Justine et à ses invités Toméo et Anouk, et puis à Léa pour sa chronique. À la réal, c'était Delila et à la coordination Alice et Maïwen. Merci d'écouter la matinale de 19h sur le 93.9. On se retrouve demain à 19h, bien sûr. Bonne soirée.